c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Radio Dune, la radio du bassin d'Arcachon avec Alain Jeanne.
Chut, on écoute la télé avec L'Angélis, votre maître artisan glacier régional, élu saveur de l'année 2018. Vos points de vente en Gironde sur l'angélis.com.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Gironde sur mariemorin.fr.
Merci de nous rejoindre pour Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Radio Dune, des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et je suis très heureux de vous retrouver avec une belle voix cette semaine. Eh bien oui, dans Chut, on écoute la télé, l'hebdo, avec une très très large partie aujourd'hui de cette émission consacrée au très beau film La Dernière Vie de Simon. Ça a été un de nos coups de cœur au festival de La Baule en novembre dernier. Et nous sommes très heureux aujourd'hui eh bien, de recevoir toute l'équipe du film. Nous allons consacrer donc une très très large partie de cette émission à ce très beau film qui sortira mercredi sur les écrans. Dans un instant, c'est donc Léo Carman, le réalisateur, Sabrina Bicarine, la scénariste, nous avons Erwan Chandon, le compositeur, Camille Clarisse, Martin Carman et Benjamin Voisin qui seront donc nos invités exceptionnels. Nous allons parler également de L'Archer Noir, le téléfilm sera diffusé samedi sur France 3 et nous aurons eh bien, à cette occasion le bonheur de recevoir dans quelques instants Hélène Dégy, Laurent Ournac, Christian Guérinel, le réalisateur. Un rendez-vous à ne pas manquer, spécial Archer Noir donc tout à l'heure. Nous allons consacrer également une partie de cette émission au Festival des créations télévisuelles de Luchon qui ouvre ses portes mercredi. Nous allons en parler bien évidemment en fin d'émission. Alors, vous l'avez compris, c'est parti comme d'habitude, on démarre avec les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Allez, on démarre comme chaque lundi avec les audiences de la semaine dernière. Lundi, il y avait Sam sur TF1 avec 3 941 000 téléspectateurs et 16,9% du public. Eh bien, Sam arrive en tête des audiences. Les Rivières Pourpres sur France 2 ne sont pas loin avec 3 877 000 téléspectateurs et 16,6% du public. Marie au premier regard est dans sa moyenne sur M6 avec 2 565 000 téléspectateurs pour 12,1% de part de marché. Tandis que Secret d'Histoire sur France 3 dépasse pour une fois les 2 millions de téléspectateurs avec 9,4% du public. Et là, c'est la surprise mardi dernier parce que pour une rediffusion, on en est très fiers d'ailleurs puisque c'est un téléfilm qu'on avait défendu, Meurtre en Pays d'Oléron dans notre région en Nouvelle-Aquitaine. Et bien ce Meurtre en Pays d'Oléron pour une rediffusion non seulement est arrivé en tête des audiences mais a fait la même audience que pour sa diffusion originale avec 4 193 000 téléspectateurs et fans du Dr Simès. Sur TF1, c'était Magnum, 15,9% de part de marché, 3 442 000 téléspectateurs, c'est loin derrière. Qui veut être mon associé sur M6 remonte un tout petit peu avec 1 705 000 téléspectateurs et 9,3% du public. Et le documentaire sur France 2 ne fait pas recette, Antisémitisme, arrive avec seulement 1 346 000 téléspectateurs et 7% de part de marché. Mercredi, il y avait New Amsterdam sur TF1, 15,9% du public et 3 539 000 téléspectateurs. Flic tout simplement pour une rediff sur France 2 eh bien, fait un score plutôt pas mal avec 2 955 000 téléspectateurs et 13,8% de part de marché. Maison à vendre sur M6 est dans sa moyenne avec 2 200 000 et c'est Arte qui crée la surprise mercredi dernier avec son très beau score et un air de famille qui frôle les 2 millions de téléspectateurs et 9,1% de part de marché. Voilà ce qu'on pouvait dire déjà sur les audiences de la semaine dernière et on va enchaîner tout de suite avec notre spécial La Dernière Vie de Simon, l'équipe s'installe à mes côtés, c'est parti.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cette semaine, c'est le film à ne pas rater de ce mois de février. C'est mercredi au cinéma, La Dernière Vie de Simon. Un film réalisé par Léo Carman, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Léo.
Bonjour, bonjour.
Qui a signé aussi le scénario, c'est Sabrina Bécarine qui est avec nous. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Camille Clarisse qui est avec nous. Bonjour Camille.
Bonjour.
Et enfin Erwan Chandon qui a signé la très très belle musique de ce film aussi. Bonjour Erwan.
Bonjour, ravi d'être ici.
Merci d'être là dans notre émission. Alors, on a eu la chance nous de voir le film en avant-première au Festival de La Baule. On en avait entendu parler au Festival d'Angoulême. On vous avait raté là-bas et on a fait une belle séance de rattrapage au Festival de La Baule en novembre dernier et on a pris une vraie calotte pour être très honnête. C'est un film magnifique. On va planter un petit peu déjà le décor avec toi, Léo. Qu'est-ce qu'on peut dire sans trop en dévoiler de l'histoire de base du film, ton synopsis en quelque sorte?
Eh bien, la dernière vie de Simon, ça raconte l'histoire de Simon, qui est un enfant de 8 ans, qui est orphelin, il rêve d'avoir une famille. Et Simon, il a un pouvoir particulier. Quand il touche quelqu'un, il peut copier son apparence autant de fois qu'il veut.
Donc c'est un mélange, je dirais, de fables, de poésie, de fantastique. Un petit peu ce film, on a des fois un peu l'impression d'être dans l'univers de films de fantasy anglais. On retrouve un petit peu cette influence aussi avec un tournage en Bretagne.
Oui, complètement. En fait, nous, ce qu'on voulait faire, c'était un film qui prenne ses racines dans le cinéma qui nous faisait rêver quand on était enfant avec Sabrina, le cinéma américain, surtout des années 90, le cinéma de Spielberg, de Zemeckis, de Cameron, en fait, du cinéma de spectacle. Mais quand on sort de la salle, en plus d'avoir passé, voilà, 2 heures normalement de spectacle, d'émotion, on repense à ce que ça nous raconte et ça nous raconte aussi notre propre vie. En tout cas, voilà, c'est ce cinéma-là qu'on a adoré regarder enfant et qu'on voulait faire maintenant.
Sabrina, c'est 8 ans de travail, ce film. Là, maintenant, il va être livré dans 2 jours au public, mais ça a été 8 ans, un parcours du combattant, en quelque sorte.
Donc oui, ça a été 8 ans de travail, et l'anecdote qui est assez rigolote, d'ailleurs, c'est que les jeunes acteurs, quand on a eu l'idée du film, n'étaient pas nés. Et ça remet tout en perspective, en fait, du temps qui a passé, de l'écriture et de la création du film. Donc ça a été d'abord 5 ans pour trouver un producteur, et après 2 ans pour trouver les financements et un an de tournage.
C'est facile quand on arrive justement comme ça, avec un scénario original qui est pas pompé de qui que ce soit, de quoi que ce soit, qui n'a justement aucune histoire derrière, une BD, un livre, rien, et qu'on arrive avec un scénario aussi original.
C'est pas facile du tout. C'est même ce qui a posé problème. C'était pas tant le côté original du scénario que le genre en fait qu'on voulait faire et le côté merveilleux. Et c'est quelque chose qu'on nous a quelque part, c'est ce qui nous a fermé les portes en fait. C'était ça, c'était nos références. Comme disait Léo, le film un peu à l'américaine, Spielberg, tout ça. Et on nous a beaucoup, beaucoup dit, on ne fait pas ça en France, c'est trop ambitieux. Voilà, c'était le refrain, en fait, pendant 8 ans quasiment, qu'on a entendu. Et finalement, on a omis à un certain moment de dire quel genre de film on voulait faire, et c'est là que c'est passé. Et voilà, mais c'était moult péripéties, ouais, pour arriver à le faire, ouais.
Pour la petite anecdote, par exemple, un financier nous a dit, on adore le scénario, on l'aurait financé si le réalisateur avait été coréen. Voilà, on nous a sorti ça. Mais en fait, il y a une sorte de logique là-dedans. C'est-à-dire qu'ils appellent ça du smart genre, c'est-à-dire des films de genre, mais qui n'utilisent pas le code du genre, on va dire bêtement. C'est des films qui se réapproprient les codes de genre avec une vraie, on va dire, une vraie volonté d'auteur. Et qui fait ça sur la surface du globe? Les Asiatiques. Et alors, le cinéma asiatique, on sait très bien le vendre en France, on sait quel type d'affiche, quel type de public visé. Voilà, mais quand il s'agit de Français qui font ce genre de film, alors là, on est perdu, quoi.
Surtout que on est peut-être sur un film de genre, oui, parce que voilà, on est sur un film fantastique avec une très belle histoire derrière, mais vraiment accessible à tout public. Et c'est ça aussi la magie de ce que vous avez réussi à faire ensemble, c'est d'avoir fait vraiment un film grand public.
Et le cinéma à grand public, en fait, c'est très difficile à faire en France, parce que quand nous on était très contents, on s'est dit, mais ce film-là, il plaît à la fois aux enfants de 8 ans qu'aux grands-parents de 90. Enfin, vraiment, on a eu tous les publics conquis, et donc on s'est dit, bon bah c'est super, tout à vouloir s'intéresser à un projet qui touche tous les publics. Et en fait, au contraire, plus vous touchez un large public, plus les gens qui s'occupent de sortir les films sont perdus parce qu'ils savent pas quel public viser, du coup. Et donc, tout le combat, c'est de dire, non, c'est possible aujourd'hui de refaire du cinéma comme ça, vraiment familial, qui réunit les enfants, les parents, les ados, les grands-parents, tout le monde peut y aller et passer un bon moment, quoi.
Camille, on t'a vu aux côtés il y a un an, côté de Thaïs Alessandrin, dans Mon bébé, film d'Aziza Azuelos. Et là, c'est une autre aventure. Tu joues le rôle de Madeleine, autrement dit Maddy, aussi, qu'on voit à un certain âge au début du film, et qu'on va voir un peu plus grande, celle que tu incarnes, toi, ensuite à l'écran.
Oui. Alors, Madeleine aurait répondu qu'elle préfère Mad, parce que ça veut dire folle en anglais. Mais moi, Camille, quand j'ai lu le scénario la première fois, je pense qu'en fait, c'est un film qui était déjà en train de bouillir alors qu'il était dans son scénario. Et je pense que ça, on l'a tous senti. Les histoires, elles arrivent avec elles-mêmes des histoires. Et donc, c'est une chance dingue quand on est actrice, ingé son, décorateur, musicien, d'un coup de se retrouver avec, entre les mains, une histoire à raconter comme celle de Simon, quoi.
Sur un tournage comme ça, t'as dû retrouver ton âme d'enfant?
Bien sûr, puis moi j'ai été aussi nourrie par le même cinéma que vous, je crois, et du coup c'était absolument formidable. Puis en fait on nous demande tout simplement d'y croire, le tout simplement entre beaucoup de guillemets, parce que c'est pas toujours très simple, mais là il se trouve que en fait on était en permanence pendant le tournage toute la journée appelés à y croire de nouveau, à toute cette histoire qu'on racontait. C'était génial.
Les apparences, des fois, ça se mélangeait un petit peu ou pas? Vous verrez quand vous allez voir le film. Il y a souvent des apparences qui changent très vite, où notamment un personnage se retrouve face à toi. Est-ce que toi, c'est facile de tout de suite rester dans ton personnage à toi et te dire en face que celui qui a changé, c'est le même, en fait? Est-ce que tu m'as compris? Sans trop en dévoiler. J'essaie de pas trop en dévoiler pour vous donner envie d'y aller, hein, surtout le voir.
Oui, j'ai compris. Alors.
Allez, débrouille-toi avec ça, Clavier.
Alors, là, il s'agit du coup de cinéma, et donc il y a aussi beaucoup de ces changements d'apparence qui ont été faits après le tournage, fabriqués après le tournage pour les yeux du public qui le verra. Mais nous, à l'intérieur du tournage même, on avait quelques subterfuges pour faire changer les comédiens au moment où ça arrivait. Mais sinon, une fois de plus, il s'agit d'y croire. C'est des situations qui sont sur le papier tellement évidente et tellement grande, il faut y rentrer. Et puis une fois qu'on est dedans, regarder, écouter, recevoir, et voilà. Donc même quelqu'un qui change de corps, il faut le recevoir.
On va parler de la musique avec Arwan dans un instant.
Non, je voulais juste rajouter par rapport au jeu des comédiens, c'était très intéressant parce que depuis le début de la préparation du film avec Camille, Benjamin et Martin, on s'est tout de suite vu pour parler de comment allait être le jeu. Et je leur ai montré une scène de Titanic, sans le son, la scène où Kate Winslet et Leonardo DiCaprio s'embrassent. Et je leur dis, voilà, maintenant imaginez cette scène sur le tournage avec les gros ventilateurs qui font du vent, les fonds verts derrière, absolument rien en musique, en images de synthèse, rien du tout. Et regardez comment ils jouent. Et en fait, effectivement, quand on regarde vraiment cette scène sans son, qu'on les regarde jouer, les acteurs, ils jouent juste un bisou. Très simple, très au présent, très dans l'instant. Et c'est de ça qu'on s'est parlé au départ, c'est de dire, voilà, évidemment, vous portez les personnages, mais vous portez pas plus que les personnages. Soyez vos personnages à l'instant présent de l'histoire. Vivez là au premier degré, même si elle est extraordinaire. Et laissez les autres composantes du cinéma, c'est-à-dire la mise en scène, la musique, les images et le scénario, faire le reste, quoi.
La dernière vie de Simon, c'est le film à ne pas rater. On va tout de suite écouter la bande-annonce.
Salut, je m'appelle Simon. Je suis du foyer.
Tes parents, ils sont morts ?
Je sais pas.
Simon, tu m'aides à mettre les verres ?
Maintenant, les secrets.
Ce que je vais vous montrer, je n'ai jamais montré à personne.
Vous rentrez pour manger, d'accord?
Prêt? Partez!
Simon! On peut pas aller par là!
Maman!
Simon!
Il est où, Simon? Quand Simon a disparu, est-ce qu'au fond de toi, tu t'es pas dit qu'il était peut-être juste parti?
Pourquoi tu me demandes ça?
Je crois que je l'ai vu en ville. On se connaît, non?
Je crois pas.
Allez, on va se retrouver dans un instant pour parler de La dernière vie de Simon. C'est notre coup de cœur ciné à ne pas rater cette semaine dans Chute, on écoute la télé. Toute l'équipe reste avec moi?
Absolument.
Absolument, on est là.
Bien sûr.
Et Arwan, qu'on n'a pas beaucoup entendu, on va t'entendre juste après parce qu'on va s'intéresser aussi à la musique du film qui est prépondérante dedans et qui nous emmène dans un univers magique et magnifique. On y revient dans 3 minutes. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chute, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. On écoute la télé, le talk show radio, le coup de cœur ciné de la semaine.
Et de retour dans Chut, on écoute la télé pour notre spécial La dernière vie de Simon. Un film qu'on a vu, nous, en avant-première, il y a maintenant quelques mois, au Festival de la Baule, qu'on a beaucoup, beaucoup aimé et qu'on avait envie de vous faire partager, en tout cas avec vous, auditeurs, aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine. Alors, on va parler un petit peu avec toi, Erwan, parce que c'est super intéressant d'avoir aussi les compositeurs pour voir un peu la manière dont un compositeur de musique peut nous plonger dans un univers, dans un état, en regardant un film. Et c'est un film très musical aussi, puisque il y a quasiment, je crois qu'on peut dire, les 3/4 du film où il y a une bande-son dessus. Alors j'aimerais savoir un petit peu comment tu l'as travaillé, comment tu as fait pour nous plonger dans cet univers magnifique de Simon.
Alors ça a été une expérience vraiment particulière dans mon histoire de compositeur, de musique à l'image, à savoir que je suis arrivé très tôt sur le projet. Mes premières maquettes remontent à 2016. Le film sort en février 2020. Voilà, ça fait énormément de temps pour chercher des idées, creuser, se tromper, chercher d'autres directions. Ça, c'est un luxe qui n'existe quasiment pas dans la musique de film. On est appelé au dernier moment, il reste 2 semaines et on doit faire 1 heure de musique. Donc là, en fait, c'est une expérience vraiment particulière.
T'es plongé tout de suite avec toute l'équipe, en fait, dans l'aventure, quoi.
Non, j'ai eu l'impression d'être vraiment privilégié d'arriver sur le scénario. On a échangé que avec Léo et Sabrina, tous les trois, et autour de l'esthétique dont ils avaient envie musicalement. On est très vite tombé d'accord puisque en fait ils ont fait appel à moi pour la musique que j'aime composer. Ça aussi, c'est un luxe énormissime quand on est compositeur de musique de film. C'est-à-dire que j'ai eu à composer exactement ce que j'aime composer. Ça n'arrive jamais, ou très rarement. C'est un jeune compositeur comme moi. On s'est mis autour du piano et on a cherché des thèmes sur le scénario uniquement. Alors moi, faut dire, j'avais lu le scénario, j'ai fini en larmes à la fin du scénario. Je me suis dit, ok, il n'y a pas besoin de musique, juste le fait de lire. Déjà, ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire est déjà poignante en elle-même. Donc après, qu'est-ce que je vais bien pouvoir rajouter en musique? Alors, on se met à chercher des thèmes, des idées harmoniques, du rythme, des idées mélodiques qu'on essaie de répartir entre les personnages, entre les lieux, entre les localisations géographiques. On tente des choses comme ça. Voilà, on est tombé d'accord sur 4 thèmes. J'ai commencé à les orchestrer. Ça nous a donné une couleur pour le film, une couleur harmonique, une couleur mélodique, un rythme. À partir de là, Léo les a passés sur le plateau de tournage quelques mois après pour que les comédiens et tous les techniciens sur le
soit dans l'ambiance,
puissent s'imprégner de l'ambiance. On dit souvent qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours. Je pense qu'une musique aussi vaut mieux qu'un long discours. Et le fait de mettre lecture sur une maquette que j'avais fait pour tel ou tel personnage ou pour telle ou telle situation, ça met tout le monde d'accord sur un mood, sur une intention.
Alors Léo, c'est pas qu'un film fantastique. Je dirais que c'est aussi un film d'amitié. Un film d'amour aussi, je crois qu'on peut le dire aussi comme ça sans trahir trop de secrets. Donc on y retrouve tous les ingrédients voilà, d'un film que vous aimez certainement voir au cinéma. Donc je vous encourage vraiment, parce que c'est ce que tu disais, ce qui est le plus dur, c'est arriver à faire rentrer les gens dans la salle. Aujourd'hui par exemple, quand tu as 5 personnes devant une salle de cinéma et elle ne sait pas dans laquelle rentrer, qu'est-ce que tu leur dirais toi?
Je leur dirais que ce film a été très long à faire parce que les financiers et ceux qui font le cinéma nous ont toujours dit qu'on faisait pas ça en France. Et quand on a enfin eu les financements pour le faire, tous les techniciens, tous les artistes qui ont fait le film nous ont aussi dit on fait pas ça en France, mais de manière extrêmement excitée. Et donc je pense que ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'en allant voir ce film, en fait, on soutient une diversité du cinéma qui, je trouve, manque. Et que le cinéma français n'est pas obligé de se limiter à des sujets soit de société extrêmement naturaliste, soit à des grosses comédies avec casting. On peut faire des histoires qui touchent tous les publics, des histoires populaires qui s'inscrivent dans d'autres genres.
C'est ça justement qu'on a aimé aussi. Sabrina, tu leur dirais quoi toi?
Ben, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Erwan quand il dit qu'on allait chercher pour faire une musique qu'il aimait. En fait, moi, ce qui me vient aussi et ce que j'ai envie de raconter beaucoup autour de ce film, c'est que, par exemple, moi, quand j'étais petite et que je rêvais déjà d'être scénariste, avec le recul aujourd'hui, je me dis malheureusement, mon rêve, c'était aussi de partir, en fait. Parce que je savais déjà quel genre de film je voulais faire. Je savais qu'il y avait un univers qui me correspondait, que je ne retrouvais pas dans le cinéma français. Et ça veut pas dire que je n'aime pas le cinéma français, mais c'est pas un cinéma dans lequel je me reconnais forcément et pour lequel j'ai envie d'écrire, tout du moins tel qu'il existe. Et je trouve ça triste, en fait, de se dire que quand on aime un certain cinéma, on se dit, mais il faut que je parte. En fait, il faut que je parte, faire carrière ailleurs, tout ça et tout. Et je suis partie, d'ailleurs. Moi, je suis partie à l'étranger, tout ça et tout, mais je suis finie par revenir. Et je suis très contente d'avoir rencontré Léo, qui avait les mêmes aspirations, la même ambition que moi. Et finalement, on a rencontré beaucoup, beaucoup de jeunes qui avaient, en fait, cette ambition. Et en fait, ils existent, en fait. Quand on dit qu'on ne fait pas cinéma là en France, parce qu'on sait pas faire, c'est faux. C'est faux, on sait faire, en fait.
La preuve. Je peux vous dire, quand vous verrez le film, la preuve.
Il y a énormément de gens qui savent faire, en fait, et qui rêvent de faire ça, mais qui se prennent des portes, en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment, quand on a dit qu'on voulait faire ce cinéma-là, on nous a dit non, en fait. Et le jour où on a arrêté de dire on veut faire ce film-là et ce cinéma-là, donc en omettant un peu le genre et tout ça, les gens, les financiers, surtout le distributeur, est parti dessus. Donc on a pu faire le film en disant qu'on voulait faire autre chose. Et finalement, après, quand le distributeur a vu le film, il l'a rendu parce que ça ne lui convenait pas. Et on est reparti sur une quête de distributeur une fois le film terminé. Ça a été jusqu'au bout, en fait, une galère pour faire accepter ce cinéma-là, en fait.
Ça veut dire que tu avais un premier distributeur qui, quand il a vu le film fini, il a dit « Ah non, moi, ça me plaît pas, ça me va pas, je le distribue pas. »
Ah, très précisément, il a regardé le film, il s'est retourné vers nous, il nous a fait « Mais... Il y a un petit côté Spielberg, non? Mais il était dégoûté. Et alors que c'était le plus beau compliment qu'on puisse nous faire, parce qu'on adore ce que fait Steven Spielberg. Et on s'est dit, bah ouais, on va peut-être pas travailler avec quelqu'un qui est dégoûté par le cinéma dont on fait référence. Et finalement, on a trouvé un distributeur qui s'appelle Jour de Fête, qui est un excellent distributeur, et qui a dit la même chose que tous les autres, c'est-à-dire, il n'y a pas de tête d'affiche, il n'y a pas de réalisateur connu, c'est pas une adaptation de licence, on ne connaît personne sur ce film, c'est un film qui ne ressemble à aucun autre en France, mais sauf que là où tous les autres ont dit ça nous fait peur, eux ils ont dit ça nous excite. Et donc ils sont partis avec nous. Et ça a été à chaque fois cette histoire-là dans le montage du film, en fait. À chaque fois, c'est des gens qui se sont dit, ok, c'est une histoire qui nous plaît trop, pour passer à côté, on prend le risque, on essaye, quoi.
Eh bien, écoutez, les amis, juste avant que Martin Carman et Benjamin Voisin nous rejoignent, on va réécouter tout de suite, eh bien, un petit extrait, La dernière vie de Simon, c'est mercredi au cinéma.
Tu m'emmènes où ?
C'est mon refuge. Je crois que je suis amoureuse. Je n'avais jamais ressenti ça. Qu'est-ce que tu fais ?
Je sais pas, c'est un peu secret notre histoire, non ?
Je t'ai suivi depuis le café.
Transforme-toi.
Transforme-toi !
Arrête !
Mais tu pensais quoi ? Que t'allais pouvoir faire semblant toute ta vie ?
C'était un accident. Thomas !
Arrête ! Je t'aime. Peu importe à quoi tu ressembles.
Voilà pour ce deuxième extrait. Alors après le compositeur, après les scénaristes, le réalisateur, Camille. Merci déjà Léo et Camille d'avoir été avec nous. Merci Erwan également, merci Sabrina. Et on va continuer à en parler de cette dernière vie de Simon, puisque vous nous avez amené aussi, eh bien, les deux héros de ce film, Martin Carman et Benjamin Voisin. Vous nous quittez parce que je sais que le planning est serré à deux jours de la sortie. Merci encore une fois Léo, merci Camille.
Non, c'était un plaisir, merci beaucoup.
Oui, merci et bon courage à vous.
Oui, mais on va en avoir. Bonjour à tous les deux. Comment ça va, Benjamin et Martin ?
Ça va pas mal.
Mais ça va très très bien. Et toi, ça va bien ?
Ça va bof.
Ça va très très bien. Surtout à deux jours de la sortie de ce film. Alors, vous êtes un peu les héros, évidemment. Si on commence à parler un peu de Thomas et de Simon, cette dernière vie de Simon nous a bouleversés. On a planté le décor, là déjà, avec une partie de l'équipe. On a parlé de la musique, on a parlé vraiment de plein de choses. Moi, j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. Alors, vous, comment vous êtes arrivés déjà tous les deux sur ce projet, Benjamin ?
Je crois de manière très classique, mon agent m'a appelé, m'a dit il faut que tu lises un scénario absolument. Et d'habitude je mets un peu de temps moi pour les scénarios, pour accoucher un peu les idées. Et là il se trouve que je l'ai lu en une heure et demie, je l'ai tout de suite rappelé, je lui ai dit à mon agent il faut absolument que je rencontre ce type. Et il m'a dit bah ça tombe bien, t'as des essais après-demain, j'y vais. Je réussis pas mal les essais, de fil en aiguille on se revoit plusieurs fois avec Léo. Et il me confirme pour le projet. Et bon on va parler après de comment on a travaillé le rôle, mais voilà comment j'ai rencontré Léo. Ça a duré à peu près un mois, ce casting-là.
Mais quand t'as lu le scénario, toi, Benjamin, à un moment donné, tu t'es dit tout de suite, c'est incroyable, cette histoire, ça n'a jamais été fait en France. C'est quelque chose qui est totalement unique. On est dans un mélange de fantastique, de romanesque, avec de l'amour, avec tellement de choses dans ce film, que quand on lit le scénario, on doit se dire, on n'a jamais eu face à ça, finalement.
Oui, mais c'est surtout qu'en plus, la chose la plus étonnante, c'est que j'ai appelé mon agent et je lui ai dit, mais il veut me voir pour quel rôle ? Et elle me dit, bah, je sais pas, pour l'un des deux, enfin, les deux, enfin, on sait pas encore vraiment.
C'était soit Simon, soit Thomas, quoi.
Ouais, c'est ça, je savais pas trop lequel jouer, j'avais aucune préférence au début. C'est ça qui était excitant. Et puis surtout, la complexité du scénario, elle était extraordinaire à découvrir. À la lecture, c'est-à-dire on mange ça comme un bonbon et on sent que Léo a passé 8 ans sur le scénario parce qu'il est quand même assez complexe, son histoire est quand même assez complexe et elle est complètement digeste en une seule lecture. Donc du coup on est étonné, on est excité et on se dit bon bah c'est impossible que ce projet se fasse sans moi.
Martin, est-ce que toi, pour toi, ça a été plus facile le fait d'être le frère de Léo ? Justement, t'as dû passer des essais, il a peut-être des résistances justement à te faire jouer dans son film, Léo, le fait que tu sois son frère ou pas ?
Bah, il y a eu les deux, moi, c'est-à-dire que même moi, j'ai eu des réticences à jouer dans son film. Au début, je voulais pas passer les essais parce que je me suis dit dans les deux cas, qu'ils me prennent ou qu'ils me prennent pas, ils seraient embêtés. Et moi aussi, d'ailleurs, enfin, s'il me fait passer les essais, il me connaît. On a déjà, nous, enfin, depuis que je pense qu'on a commencé à faire des courts-métrages, je devais être en CM2, lui en 5e, il a une DV pour Noël, il a commencé à me filmer. Enfin, notre rapport a toujours été beaucoup lié au cinéma. Et du coup, je me suis dit, mais si je passe les essais et qu'il me prend pas, il va être emmerdé de pas me prendre. Et s'il me prend, il va pas savoir s'il est assez objectif et tout ça. Donc moi, je trouve que c'était assez complexe comme situation. Et puis il a insisté. Et au final, je les ai passés. Et c'est vrai que ça faisait 8 ans que je le voyais travailler sur ce projet. Donc je connaissais bien le sujet. C'est vrai que d'avoir mon frère derrière la caméra, ça aurait été quelque chose que je connaissais déjà. Donc,
c'est rassurant.
Oui, enfin c'est rassurant pas parce que c'est mon frère, c'est rassurant parce que c'est Léo et c'est son œil qui est rassurant, c'est sa vision du cinéma, c'est sa façon de diriger les acteurs qui est rassurante parce qu'il sait exactement ce qu'il veut, c'est quelqu'un de très 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 précis et du coup ça c'est rassurant mais pas parce que c'est mon frère, c'est rassurant pour n'importe quel acteur.
La première fois que vous avez vu le film fini, vous êtes dit quoi ? Vous avez dit waouh ?
On s'est dit exactement waouh. Non ouais, c'est vrai.
Quand les enfants démarrent, on se dit wow, ça commence vachement bien. Est-ce qu'on va réussir à tenir le truc? Parce que les enfants sont quand même formidables dans ce film. Moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film avec des enfants aussi jeunes et aussi bons acteurs. Et ça, c'est grâce à Léo et grâce au coaching qu'ils ont reçu. Et après, là, on arrive à l'écran, Martin et moi, et on se dit bon, est-ce qu'on va réussir à passer la chose? Et
c'est tellement fluide. On dirait vraiment que c'est la continuité, quoi.
En plus, c'est un film où il n'y a pas beaucoup de dialogue. Finalement, il y a beaucoup de choses qui se passent par le regard. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, c'est l'émotion qui passe vraiment par les yeux, par l'énergie. Et c'est un film, même pour nous, où c'est généralement pas forcément très agréable de se voir. Je trouve que dans ce film, on arrive à le voir comme un, on fait partie d'un tout, quoi. On se dit pas, enfin, moi, je me dis pas, oh, je me regarde en regardant ce film. Je regarde le film, quoi, l'ensemble.
Et puis, il y a quand même un truc qui est assez extraordinaire. C'est que quand on lit un scénario, on sait jamais exactement quel film ça va devenir. Il y a tellement de paramètres et de couches du métier qui vont travailler à ça. Et je crois pouvoir parler, en toute l'équipe, en disant que c'est vraiment le film qu'on voulait faire tous ensemble. Et quand on voit même nous, acteurs principaux, quand on voit notre réalisateur fier de son film, on est hyper heureux d'avoir répondu au cahier des charges, quoi.
C'est quoi votre meilleur souvenir sur ce tournage ?
La complicité qui s'est créée entre Martin et moi. C'est une chose qui y aura... Je suis pas sûr que ça soit très courant au cinéma, cette chose-là. Et en fait, elle était évidemment présente sur le plateau de... le plateau de cinéma, mais aussi en dehors, à côté, où on passait beaucoup, 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 beaucoup de temps ensemble, de discussions, de philosophie, où d'humain à humain, on a grandi ensemble. Et le rôle de Simon, il a permis aussi de s'interroger chacun, l'un envers l'autre, d'une forme assez commune pendant 2 mois, et m'a fait grandir. Et ça c'est la chose que je garde le plus en tête. Ouais. Et aussi d'avoir fait la rencontre de Léo, qui, j'en suis très fier, d'avoir fait son premier film, parce que je pense qu'il va en faire 15 et que les 15 vont être de plus en plus beaux et sublimes. Et que, voilà.
Ils vont nous chambouler certainement encore aussi, Martin.
Bon, évidemment, tout ce qu'a dit Benjamin, en plus ça me touche beaucoup, comme il l'a dit, je trouve que c'était beau. Ouais, mais moi aussi, pareil. Tout ça, et alors si j'ai après, il y a un souvenir plus précis. Il y avait une séquence dans le film qui a été, qu'on appréhendait tous, c'est la séquence 107 du film, mais j'ai pas envie de spoiler ce qui s'y passe, mais c'était une séquence assez compliquée pour, en tout et pour tout, et dans le jeu, et dans les plans, et tout ça, il fallait la rentrer en 2 jours, je crois. Mais moi, c'était un souvenir, hyper bon parce que, en fait, ça s'est déroulé très bien. Léo était très content assez vite de ce qu'on proposait. Tout s'est bien fait alors que tout le monde vraiment appréhendait la séquence, que ce soit la technique, que ce soit les acteurs, tout le monde parlait de cette séquence, genre la séquence qui fait peur. Et en fait, ce jour-là, enfin, ça s'est déroulé comme une scène même plus simple. Enfin, tout est venu très naturellement. Il y avait même un passage de relais avec Benjamin dans cette séquence qui s'est fait très bien, alors que c'est un passage de relais qui était un peu compliqué parce que on devait rester dans une continuité d'une émotion assez forte. Et en plus, et le soir, on est tous rentrés, on a fait un barbecue, et c'était la demi-finale de la Coupe du Monde France-Roumanie, et on a gagné. Ce moment-là, moi, je me rappelle que je m'étais dit sur le tournage, oh la vache, ça, c'est une belle journée.
Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, là, 2 jours de la sortie?
Que les gens voient le film.
Moi, ce que j'espère, oui, c'est que les gens le voient, c'est que les gens aient la curiosité d'aller voir ce film, alors, parce que c'est pas, enfin, on l'a déjà dit, mais c'est pas un film courant en France, le cinéma de genre et ce cinéma-là. Et j'espère qu'il marche, et pour tous les gens qui l'ont fabriqué, parce que vraiment tout le monde a donné énormément de sa personne pour ce film, mais aussi pour le cinéma, parce que si ce film marche, peut-être il pourrait ouvrir des portes au cinéma, et peut-être qu'il y a d'autres scénarios où les acheteurs, et ça, sont un peu frileux. Ils ne veulent pas partir dessus parce que c'est du cinéma de genre et tout ça, qui pourrait peut-être se faire parce que ce film aurait pu ou potentiellement ouvrir la porte à ça, quoi. J'espère vraiment, pour toutes ces raisons-là, que ce film va marcher, quoi.
Vous aimez l'amour, vous aimez la romance, vous aimez le fantastique, vous aimez rêver au cinéma, eh bien c'est le film qu'il vous faut. La dernière vie de Simon, ça sort mercredi dans les salles. Merci infiniment d'être venu pour finir eh bien avec nous cette spéciale de La dernière vie de Simon, le film à ne pas rater de ce début février. Merci à tous les deux.
Et merci Alain pour cet accueil que tu nous fais et ces gens formidables que nous avons rencontrés en Charente-Maritime. C'était exceptionnel cette journée passée dans ces quatre cinémas avec toi.
Ouais, merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais pour le cinéma.
Et on va continuer tout de suite avec un petit extrait à nouveau, un petit teaser de La dernière vie de Simon.
Prêt ? Partez !
Simon ! On peut pas aller par là !
Thomas !
Simon !
Il est où, Simon ?
Quand Simon a disparu, est-ce qu'au fond de toi, tu t'es pas dit qu'il était peut-être juste parti ?
Pourquoi tu me demandes ça ?
Je crois que je l'ai vu en ville. On se connaît, non?
Je crois pas. Tu m'emmènes où?
C'est mon refuge.
Je crois que je suis amoureuse. J'avais jamais ressenti ça. Qu'est-ce que tu fais?
Je sais pas, c'est un peu secret notre histoire, non?
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va parler de L'Arche Noire, le téléfilm qui sera diffusé cette semaine sur France 3. Et puis on a de la chance dont je suis en écoute la télé aujourd'hui puisqu'on a une bonne partie de l'équipe qui est avec nous, Christian Guérinel, le réalisateur. Bonjour Christian.
Bonjour, comment va la télé?
Ça va très très bien, merci d'être avec nous Christian. Nous avons Hélène Desgigues avec nous, bonjour Hélène.
Bonjour.
Alors vous l'avez aimé dans Un si grand soleil avec un guest qui a fait beaucoup parler à l'automne dernier. Eh bien vous allez la retrouver sur France 3 cette semaine. Et aux côtés alors de quelqu'un d'inattendu sur France 3, c'est Laurent Ournac. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, qui fait une petite incartade sur France Télévisions et qui va nous offrir un rôle aux antipodes de Tom Delorme avec un polar bien ficelé dont on va rappeler tout de suite un peu l'histoire de base avec toi Christian.
L'historique, c'est véritablement, avec Laurent on se connaît depuis très longtemps et j'ai une véritable admiration pour Laurent parce que je sais qu'il a un gros potentiel de travail. Et donc voilà, il y a quelques années, je lui ai demandé s'il avait envie de faire quelque chose que je pouvais lui proposer. Il m'a dit mais envoie, ça sera avec plaisir. Il l'a lu et enfin il a lu quelques pages, il s'est lancé sur quelques pages et il m'a dit bah écoute avec grand plaisir de te suivre. Et finalement il a été d'une patience voilà à toute épreuve et quelques années après on est là et on est très heureux de ce qu'on a fait. Et je pense que pour Laurent voilà, je suis très fier de l'avoir emmené sur autre chose pour montrer à tout le monde qu'il a des capacités sur autre chose que Tom. Et même si Tom est un grand rôle, puisque moi j'ai fait le pilote avec Laurent, donc je sais que voilà, je n'ai pas de problème pour l'éventail.
Laurent, ça t'a fait peur un petit peu ou tu t'es dit chouette, un nouveau challenge, ça va être autre chose, je vais pouvoir montrer autre chose?
Non, je suis quelqu'un de courageux, donc j'ai pas eu peur.
Je l'ai pas. Surtout que tu passes déjà derrière la caméra, donc tu sais ce que c'est que le travail.
Oui, mais c'est vrai que c'est assez. Ce que je disais, c'était, je leur disais à chaque fois, j'ai l'impression d'être Coluche dans Inspecteur la Bavure, quoi. J'ai l'impression de découvrir un univers qui n'est pas le mien, et du coup d'être toujours de dire est-ce que je suis dans le ton, est-ce que je suis pas à côté, est-ce que je suis pas trop comédie dans des moments où il faut pas l'être. Mais non, oui, du coup forcément j'avais forcément peur de parce que c'est quand forcément quand on s'essaye à un nouveau registre, il y a la peur d'être dans le cliché, il y a la peur de caricaturer ce que font déjà d'autres comédiens très bien dans d'autres films. Donc c'est comment il faut trouver finalement sa personnalité dans cette facette là de nous, dans ce côté plus droit, un peu moins fanfaron que Tom peut l'être dans ce registre de directeur de camping que je joue depuis très longtemps. Donc c'est aussi une façon de travailler, d'interpréter un rôle récurrent pendant des années. Donc du coup forcément on se met dans une espèce de cage aussi un peu où on prend ses habitudes et ses repères, et d'un coup il faut un peu malgré tout, même si on se dit oui mais acteur c'est normal, on passe par plein de rôles très différents, quand finalement on en change assez rarement. C'est vrai qu'il faut un peu se casser la carapace qu'on s'est mis un peu autour de soi dans le jeu, parce qu'on a des automatismes, on a des facilités par rapport au personnage qu'on a l'habitude d'être. Et du coup, c'est vrai que là, c'est un peu une remise à niveau, une remise à plat, une remise à zéro. C'est un peu un reboot du système, quoi. Ouais.
Ça va être chouette de te voir dans autre chose et aux côtés d'Hélène en plus, puisque vous avez joué ce duo d'enquêteurs qui va enquêter sur une affaire bien sombre, une histoire d'arc et de fléchettes que vous allez voir. Et là, ça rigole pas. Hélène, tu vas mener l'enquête de main et de fer.
Tout à fait. On va mener l'enquête à deux. Il va nous arriver aussi des choses dans notre vie personnelle, et ça qui est très intéressant aussi à défendre dans ce téléfilm où le perso et l'enquête va être mêlés ensemble.
Oui, on va découvrir un lien très particulier entre les deux personnages au fil de l'histoire. Christian, comment a été écrit justement cette histoire? Comment est venue l'idée?
Alors, on est parti tout d'abord avec Richard, avec qui je travaille depuis quand même maintenant plus de 6 ans, sur une envie. Richard avait commencé à travailler sur un projet avec des Canadairs et avec une très belle histoire. Mais quand on a discuté ensemble, j'ai dit ça serait très bien. Il voulait en faire un long métrage. J'avais dit ça serait peut-être très bien de trouver autour des Canadairs, on va dire, une histoire pour la télévision. De là-dessus, notre envie, parce qu'on aime beaucoup cette série qui est Meurtra, et on a voulu commencer à en faire un Meurtra. On est parti de là-dessus. Avec ce couple, ça a toujours été une histoire entre un homme et une femme avec une relation particulière, mais un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude. Et surtout, ce qu'on voulait, c'est que quelque part, les deux personnages y aient un lien très fort au niveau du social et du personnel, parce que je pense que de toute façon, en France, les spectateurs ont quelque chose qu'ils aiment beaucoup, c'est le côté privé et pas uniquement le côté professionnel, enquête et autres, mais le côté privé a une charge émotionnelle très importante. Et je pense que dans ce téléfilm-là, c'est ce qu'on a réussi à mettre aussi en avant. L'enquête est une chose, mais le côté privé et le rapport entre nos deux enquêteurs sont très importants à ce niveau-là. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne voudrais pas en dévoiler plus, mais je pense que voilà, beaucoup de gens vont se retrouver là-dedans pour plein de choses dans la vie traditionnelle, et je pense que c'est quelque chose qui, même si on n'en parle pas trop dans la société, ça existe très très souvent. Voilà.
On va écouter un petit extrait. L'Archer Noir s'est diffusé cette semaine sur France 3.
Bonjour. Capitaine Alex Lançon, office juridique des armées.
Vous prête. Allez-y.
Mais restez mon capitaine. Adjudant Rousset. On vous attendait justement, suivez-moi.
Alors, vous en êtes où?
On vient juste d'arriver. Les techniciens commencent à peine.
On sait qui est la victime?
Non, pas pour le moment. Mais le lieutenant Giraud vous en dira plus.
C'est bien elle qui est en charge de l'affaire?
Oui, oui, tout à fait, oui. Pourquoi, vous la connaissez?
Non, non, non.
C'est elle qui est juste là. Je vous laisse ça, je dois rejoindre les gars.
Merci.
Alors Laurent, toi qui es passé un petit peu à la réalisation aussi, comment ça s'est passé le tournage? Est-ce que tu as oscillé en même temps avec Camping Paradis? Ou alors ça s'est tourné complètement de façon déportée?
Non, ça s'est non, complètement de façon déportée dans une période chargée, parce que j'étais papa pendant le pendant le tournage. Voilà, d'ailleurs c'est drôle parce que malgré tout ça rajoute une charge émotionnelle très personnelle évidemment à cette période de tournage. Et du coup, on l'a tourné en hiver, donc du coup une période où j'étais en tout cas sans engagement vis-à-vis de Camping, ce qui était déjà bien plus simple, même si le film se tournait finalement à quelques kilomètres par moment du Camping, mais c'était une période en tout cas privée intense, parce que mon petit Léon est né pendant le tournage. Je me revois leur dire à la cantine, bon bah là je, en fait ça y est, c'est c'est parti, donc c'est maintenant, donc sauf que nous étions à La Ciotat, que mon épouse était à Paris, voilà, et cette équipe formidable avait tout préparé, et je me suis retrouvé en temps et en heure pour retrouver Ludivine. Donc voilà, non, c'était ça restera de toute façon, quoi qu'il arrive, un tournage chargé d'émotions pour moi, et avec cette première fois et cette arrivée d'un bébé dans la petite famille Urnac. Donc voilà, mais c'est, à la base ça devait être une période où j'avais rien et ça devait être super facile, et en fait c'était une période,
c'est toujours comme ça,
on s'est dit il a rien, donc on va l'appeler, et finalement ce que je me souviens très très bien de cette journée où Laurent nous a dit bon bah là je crois que je vais être obligé de rentrer, et de toute façon dès le début on avait dit à Laurent on fera le maximum pour que de toute façon tu sois présent pour la naissance. Et d'un coup j'ai téléphoné à Richard qui était pas sur le plateau avec nous pour lui dire ben voilà, on a cette séquence là, il faut qu'on trouve une solution. Et je pense que d'ailleurs les comédiens, je pense que quand ils l'ont vu cette solution, ils ont été assez bluffés, parce que finalement il est présent pendant tout le temps alors que normalement il aurait pas dû être présent. Donc faut reconnaître que la caméra et la façon dont on la tourne, c'est assez magique, et finalement il a tout écouté même s'il était pas là. Le seul plan et là où Laurent était pas là, c'est quand on vient chercher Estelle, et finalement Laurent n'est pas là mais il est là quand même, quoi. Voilà, c'est plutôt assez drôle, et je pense que ça les a surpris un petit peu, et c'est bien parce que du coup il est vraiment présent pendant tout le temps, et le petit Léon est né, et c'est une très bonne chose, et son papa était à côté de lui, mais il était quand même à côté de nous, son papa. Voilà.
C'est la magie du cinéma et de la télévision. T'as rencontré Hélène avec Laurent?
Eh ben, ça s'est très très bien passé.
Tout de suite, dès le départ, ça a fonctionné, les deux là.
Ouais, c'était très agréable, et j'ai senti que, enfin, tout de suite, Laurent aussi très l'envie, l'ouverture, la bienveillance. Voilà, moi, j'étais tout de suite très à l'aise avec Laurent, et on s'est très bien entendu dans le travail.
autant moi Hélène je l'ai rencontrée sur une première de La Peur où vraiment elle m'a bluffé parce que c'était la première fois que je voyais une dramatique. Laurent je le connais parce qu'on a fait deux films notamment avant qu'il fasse qu'on fasse le pilote de camping ensemble, et leurs deux univers je pense que font un duo étonnant et détonnant dans L'Arche Noire. Donc c'est pour ça que je suis très fier de ne pas m'être trompé, parce que je sais que je ne me suis pas trompé. Voilà.
Enchaîné, je crois, le tournage de L'Arche Noire juste après ton guest d'Un Si Grand Soleil en plus. Hein.
Exactement, ouais, ça s'est bien enchaîné. Je suis restée dans le sud du coup, hein, voilà, pendant l'année.
Pendant l'hiver, c'est sympa, ça va le faire. Bon, Un Si Grand Soleil, la page est tournée, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'elle sorte de prison un jour et qu'elle nous revienne, ce personnage haut en couleur?
Je ne suis pas morte en tout cas.
C'est déjà bien. Dans une série quotidienne, c'est déjà très bien. Enfin, même quand t'es mort, tu peux revenir.
Bon, après, j'ai commis quand même un sacré. Je crois que normalement, dans la vie, on devrait avoir 30 ans de prison pour ce que j'ai fait. Et puis, je l'ai bien affirmé, bien. Voilà, je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je l'aurais fait. Mais. Non.
Benjamin Bourgois, tu l'as pas. Hein, ouais. Il a été assaisonné du début à la fin.
Exactement, mais c'était génial de tourner justement ça, parce que ça a démarré de la comédie romantique au drame total avec lui, puis c'est un super partenaire de jeu aussi, Benjamin.
Et le couple fonctionnait très bien à l'écran, on a presque eu de la peine au moment où on a découvert effectivement que c'était toi la méchante.
Bah oui, c'était voulu par les scénaristes aussi, parce que on voulait qu'il y ait vraiment de l'empathie, qu'on aime cette femme, voilà, c'était une super flic, une histoire d'amour, une love story, etc., jusqu'à ce qu'on découvre la noirceur de voilà, et ce qu'elle a fait au final, et que c'était vraiment un passage comme une comète un peu éclair comme ça, qui laisse sa marque. Mais je sais pas si je reviendrai, ça dépendra des scénaristes évidemment, mais avec grand plaisir.
Ben non, on l'espère en tout cas. Laurent, est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué particulièrement dans L'Arche Noire?
Enfin, il y a une scène à un moment où parce que mon personnage n'est pas militaire, lui il représente l'office juridique des armées, donc c'est pas un gendarme, il a pas d'armes, c'est pas quelqu'un qui d'habitude enquête sur le terrain, donc c'est pas quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un plutôt de la bureaucratie plutôt que de l'action, et du coup il se retrouve voilà à un moment obligé de mettre en joue quelqu'un avec une arme, et du coup c'était à la fois pour le personnage mais à la fois pour l'acteur que je suis, parce qu'effectivement tout nouveau dans ce registre là, c'était particulier parce que justement je cherchais à être juste, voilà, il y a de l'émotion, il se passe plein de choses en même temps, sur les regards, sur le jeu, sur le texte. C'était une séquence qui m'inquiétait à la lecture du scénario, et du coup forcément elle m'inquiétait au moment du tournage, mais voilà, non, je suis content de ce que ça rend, et puis effectivement je pense effectivement en demande d'être rassuré un peu, de savoir si c'était bien ou pas et si c'était cohérent et s'il fallait la refaire, il y avait pas de souci, on en refaisait jusqu'à temps qu'on ait ce qu'il faut. C'est vrai que Christian là-dessus et de la même façon et de sa bienveillance m'ont rassuré au fur et à mesure du tournage pour appréhender ce moment-là et être juste, parce que c'est vrai que ça paraît, très honnêtement, j'ai souvent dit, ça paraît simple à faire, le policier, parce que c'est finalement, effectivement, jouer plus droit. La comédie, finalement, c'est très écrit, c'est très rythmé, c'est assez millimétré, finalement, la comédie. Là où on se dit, ouais, policier, on prend le pistolet, on met quelqu'un, on crie. Mais justement, de le faire de façon assez crédible et juste, sans être dans le cliché, sans être dans la caricature ou l'imitation de quelqu'un d'autre, c'est pas si évident que ça. Et le policier, c'est un registre tellement aimé, vu, revu, enfin, voilà, une enquête, il y a rien de plus banal qu'une enquête finalement, même si elle a toujours un archétype, une écriture, machin, mais c'est comment justement les comédiens portent cette enquête, et où finalement on rentre dans l'enquête souvent par la personnalité des enquêteurs qui la tiennent, et c'est vrai, Christian, quand il dit le privé compte beaucoup dans les scénarios, et évidemment on s'accroche, finalement on regarde pas une série parce qu'on se dit ah les enquêtes sont bien, non, on regarde une série policière parce que les personnages qui gèrent les enquêtes sont charismatiques, sont attachants, sont touchants, parce qu'ils ont souvent, on donne de leur privé, et c'est ça qui finalement donne le feuilletonnant et donne envie d'en savoir plus. Ouais.
D'ailleurs, côté émotion, on en prendra un petit peu avec Christian Rothe, qui nous joue un rôle avec beaucoup de sensibilité, et voilà, vous apprécierez en tout cas de revoir Christian dans ce très beau téléfilm qui joue le rôle de ton papa, Hélène, le rôle du père de Diane.
Je voulais rajouter un petit quelque chose sur justement cette scène que parle Laurent. C'est que j'avais, comme Laurent ne vient pas de cette filiale de policiers, j'avais dans ma tête l'idée de savoir que quand on tire pour la première fois avec une arme, même avec une balle à blanc, le bruit et la sensation, et il y a quelque chose qui s'inscrit sur le visage. Et c'est pour ça que j'ai tourné directement la première prise. Avant, on a fait les répétitions sans les balles, sans rien. Et la surprise qu'il a sur son visage au moment où il tire est d'un réalisme sans nom, alors qu'à un moment de peu de temps avant, Hélène lui dit « Tu n'as pas d'arme ». Donc voilà, en gros. Et donc, ce réalisme est absolument sensationnel. Et du coup, Laurent a été obligé de gérer la sensation et l'anticipation de ce qui pouvait arriver avec l'arme chargée. Et en même temps, tout le jeu qu'il avait à faire, tout ce qu'il avait par rapport au personnage, par rapport à lui, par rapport à Hélène, par rapport au personnage en face. Et d'un seul coup, ça faisait quelque chose qui, à l'image, était obligé de nous rendre quelque chose de sensationnel. Et je pense que quelque part, voilà, je pense qu'on a réussi à toucher parce que le personnage est touchant même quand il a cette arme dans les mains et quand il tire. C'est quand même une très bonne chose, quoi. Voilà. En tous les cas, moi, j'ai beaucoup aimé cette surprise.
Merci Hélène, merci Laurent, merci Christian d'avoir été avec nous pour cette spéciale de l'Archer Noir. Film à ne pas manquer cette semaine sur France 3. À très vite, les amis.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir, merci beaucoup, à bientôt.
Bye bye.
Ça a aucune valeur. À tous les coups, ils ont déjà tout balancé dans une poubelle. En attendant, ça nous met bien dans la merde. Je vais jouer demain soir en ville.
C'est du théâtre ?
Ouais. Non. C'est un spectacle vivant. On présente la ville l'Archer Noir. Ça plaît aux touristes et nous, ça nous permet de rentrer un peu d'argent pour la sauce. Alors ? Vous êtes là pourquoi ?
On voudrait savoir si tous les membres de l'association sont bien là aujourd'hui.
Ah, vous n'êtes pas venus nous aider. Vous venez encore nous arrêter ?
On est venu parce que c'est important, voilà.
Allez, on va se retrouver dans un tout petit instant. On va parler notamment de la nouvelle édition du Festival des créations télévisuelles de Luchon. On va parler programme, évidemment. Alors surtout, vous ne bougez pas, on revient juste après ça. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Et de retour pour la dernière partie de Chut, on écoute la télé. Et on va consacrer, je vous l'avais dit, cette dernière partie au Festival des créations télévisuelles qui ouvre ses portes ce mercredi. Ce mercredi pour une nouvelle édition tout en couleur, bien évidemment, consacrée largement au documentaire et à la fiction télé. Et on a justement Christian Miégile qui est avec nous pour en parler. Bonjour Christian.
Bonjour.
Et qui est le président de l'association du festival. Christian, une nouvelle édition qui a l'air de se présenter sous les meilleurs auspices à nouveau.
Écoute Alain, comme tous les ans, il n'y a pas à dire, nous attendons beaucoup de monde, nous avons des plateaux séduisants, des artistes qui ne le sont pas moins, et il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas un beau festival.
Alors on peut rappeler un peu l'ADN du Festival de Luchon, parce que je crois que c'est très ancré aujourd'hui dans les montagnes pyrénéennes, et aujourd'hui ce festival respecte un ADN bien précis, c'est quand même la joie, la bonne humeur, le partage également.
Ben, c'est ce que nous voulons, Luchon, comme tout le monde le sait, c'est quand même en plein cœur des Pyrénées, exactement au milieu des Pyrénées, c'est à 8 km de la frontière espagnole. C'est une ville thermale et c'est une station de ski. Nous voulons que ce soit, que l'intérêt du festival parte de la ville, soit dans un premier temps, bien sûr, local, dans notre département, dans notre région, l'Occitanie. Et voilà. Et à ce titre, nous recevons tous les gens du métier qui ont des filles qui ne sont pas déjà présentées sur diffusées sur les chaînes de télévision. Nous garder la primeur et qu'il soit sélectionné par nos différents jurys.
Alors un jury présidé d'un côté par Patrick Timsit pour le jury fiction. Nous avons également un jury documentaire cette année, des avant-premières en pagaille. Vous allez pouvoir voir en gros des avant-premières de toutes vos séries préférées sur Luchon, puisque je crois qu'il y en a pas loin d'une quinzaine d'avant-premières en plus aussi.
Oui, effectivement. Bon, la présidente du jury documentaire n'est autre que Michel Cotta. C'est toujours pareil, nous avons des unitaires en compétition et des unitaires qui vont être en avant-première, qui n'ont jamais été diffusés, parce que tout ne peut pas rentrer en compétition. Et pour les documentaires, idem, et pour les séries, également.
C'est un des mots d'ordre du festival d'ailleurs intergénérationnel, puisqu'on pourra retrouver par exemple l'équipe de Camping Paradis, de Cassandre ou d'Un Si Grand Soleil en dédicace pendant ce festival par exemple, entre autres.
La remarque très professionnelle me fait plaisir. Donc effectivement c'est ça, parce que c'est assez curieux, par exemple des films comme tu viens de citer attirent des publics. Moi par exemple, près de moi, j'ai un jeune qui a, une quinzaine d'années, qui est fou de camping paradis, mais je dis fou. Et j'ai des personnes qui ont plus de 70 ans qui adorent camping paradis. Et les access prime time quotidiens, comme par exemple un Sirène Soleil, pareil, ont des publics très vastes et très diversifiés.
Alors il va y avoir beaucoup de surprises pendant ce festival, des projections ouvertes à tous, au public, ça aussi c'est important. Vous pouvez vous procurer les passes du festival, notamment à l'office de tourisme de Luchon. Ça se remplit très vite, mais nous avons voilà des accès en tout cas qui vont nous permettre de vous faire vivre ce festival au plus près sur tous nos réseaux sociaux et notamment notre page Facebook, Chut, on écoute la télé ou encore nos applications sur iPhone et Android pour vivre ce festival avec vous, des Facebook Live, cérémonie d'ouverture, déjà après-demain, mercredi, qui va être évidemment en présence de tous les jurys. Christian, comment tu te sens là maintenant à 2 jours de l'ouverture ?
Si je te disais que je suis décontracté, tu me croirais pas. Alors je te le dis pas, on est à fond, de chez à fond, pour essayer que tout d'aille pour le mieux. Il y a toujours un truc à faire, il y a toujours une brique à coller. Après, il faut surtout bien coincer le sourire pendant ce... coincer au sens humoristique, bien sûr, c'est avec grand plaisir qu'on sourit, mais pendant 5 jours, il faut penser qu'à ça, qu'à réserver le meilleur accueil aux gens qui viennent, aux artistes, mais au public et au grand public. Parce que j'ai même rencontré, cet en mai, au festival de La Rochelle, j'ai rencontré 3 dames qui adorent la télé, qui étaient au festival de La Rochelle, qui viennent au festival de Luchon et qui sont de la région de Lyon.
Alors, juste pour terminer, Christian, quelques invités d'honneur prestigieux qui seront là pendant ce festival. Je vais en nommer quelques-uns, mais on peut parler de Yann Arthus-Bertrand. On peut parler évidemment aussi de la présence de Jean-Luc Reichmann ou de Mimi Mati qui seront là pendant ce festival de Luchon. Donc, autant vous dire que les fans vont être ravis et que les gens qui vont être sur Luchon, je pense, vont être ravis, bien évidemment. Mais des invités comme ça, il va y en avoir pendant 5 jours qui vont succéder sur vos Champs-Élysées à vous, les Allées des Tignes, finalement.
Oui, ben justement, de Yann Arthus-Bertrand, je vous souligne que la journée de vendredi 7 février sera une journée réservée au climat. Le vendredi matin, à 10h30, nous présenterons en avant-première nationale Woman au cinéma Le Rex chez nous pour donner satisfaction à tous les gens qui n'ont pas encore... personne n'a eu la chance de le voir.
Exactement, voilà. Un film pour les femmes, sur les femmes, et qu'on pourra voir aussi d'ailleurs en avant-première chez nous en Nouvelle-Aquitaine du côté du CGR de La Rochelle le 13 février prochain, où Yann Arthus-Bertrand fera également escale. Christian, merci, on prend la route, on te rejoint dès demain. Nous serons à vos côtés à Luchon pour vivre ce festival, et bien à tes côtés.
Merci à toi, et très heureux de se rencontrer une année de plus.
Exactement, très belle journée à toi et bonne préparation.
Bonne route et bon festival.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Nous ferons donc la part belle à cette nouvelle édition du Festival des créations télévisuelles de Luchon avec le palmarès, les réactions des lauréats et plein d'autres surprises et des invités, bien évidemment. Nous aurons également notre coup de cœur ciné que nous consacrerons au film Le Prince oublié. À cette occasion, nous recevrons Michel Zanavicius et Bérénice Bejo. Vous l'avez compris, encore donc un très très beau programme qui vous attend.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Sans oublier vos applications sur iPhone et Android, Chut, on écoute la télé. Moi, je vous retrouve dès demain matin, 5h35, 10h30 et 12h20 sur Radio Dune pour les quotidiennes. Et puis lundi prochain, on se retrouve bien sûr dès 16h pour la grande hebdo de Chut, on écoute la télé. En attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite une très très belle fin d'après-midi à tous et je vous dis à demain.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Gironde sur mariemorin.fr.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier régional, élu saveur de l'année 2018. Vos points de vente en Gironde sur langélis.com.